01 45 24 7000, Christian nous appelle de Pujol. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Monsieur Ferrand.
Bonjour.
Voilà, bon, je sais que vous avez été l'un des premiers à être derrière Monsieur Macron et à croire en lui, mais là il ne s'agit pas du tout d'un problème de morale, c'est un problème politique. En effet, là il faut bien regarder le problème en face. Monsieur Macron a besoin d'une majorité pour gouverner, c'est indispensable. C'est le dernier quinquennat, c'est la dernière possibilité, ou alors c'est le retour du Front National. Alors, Monsieur Ferrand, évidemment, il y a eu probablement quelques petits arrangements dans la famille, mais enfin bref, ça c'est pas grave, vous n'êtes pas en tort, ça c'est clair. C'est tout à fait clair, mais il faut savoir renoncer au niveau de votre ego pour que Monsieur Macron ait une majorité, qu'il puisse gouverner et que la France puisse s'ouvrir des perspectives. Parce que là, franchement, c'est la dernière chance que nous avons. Merci Monsieur Ferrand, et désolé de cette question, mais il faut parfois renoncer à son ego pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand que soi-même. Au revoir, Monsieur Ferrand.
Merci, revoir, monsieur. Merci, Richard Ferrand.
Écoutez, vous savez, je suis secrétaire général d'En Marche, et je mène la campagne électorale avec les candidates et les candidats qui se battent sur le terrain. Quant à moi, je suis totalement à la disposition du Premier ministre et du Président de la République. Je n'ai pas un problème d'ego. On ne devient pas ministre parce qu'on en aurait envie. C'est parce qu'il y a des gens qui ont été élus par le peuple français, je pense au président de la République, j'aurais pas dû dire des gens d'ailleurs, le président de la République, qui ensuite nomme un premier ministre, et qui essaye de faire la meilleure équipe de France. Ils m'ont fait l'honneur de me demander d'accepter d'être ministre de la cohésion des territoires. Par conséquent, je travaille d'arrache-pied tous les jours sur les sujets de ruralité, sur les sujets de politique de la ville, sur les sujets de logement.
Un peu moins ces jours derniers, sans doute.
Non, pas du tout. Hier,
j'ai
reçu l'association Droit au Logement. J'ai reçu l'association des départements de France, une délégation emmenée par Monsieur Bussereau. J'ai rencontré le président de l'association des régions de France, Monsieur Richer, aux côtés du président de la République.
Richard Ferrand, question posée par l'auditeur, c'est celle des dégâts politique provoquée par votre mise en cause. Est-ce que vous mesurez ces dégâts là, aujourd'hui ?
Écoutez, Monsieur Cohen, si je suis ici, c'est parce que, précisément, il faut que je réponde aux auditrices et aux auditeurs.
Oui.
Mais je ne suis pas mis en cause par la justice. Je suis mis en cause par des enquêtes journalistiques qui ont parfaitement le droit d'exister. Moi, je respecte la liberté de la presse. J'y suis extrêmement attaché. Et qui, au fond, créent tout un tintamarre médiatique sur un certain nombre d'actes de gestion que j'ai réalisés lorsque j'étais directeur général. Donc, si vous voulez, voilà par quoi je suis mis en cause. Mais que je sache, ni la justice, ni les électrices et les électeurs ne se sont prononcés. D'ailleurs, le Premier ministre a bien dit, et je le fais, d'ailleurs c'est une tradition républicaine, il faut que celles et ceux qui se présentent aux élections les gagnent. Et donc dans mon centre Finistère, de Crozon à Carré, en passant par Châteaulin jusqu'à l'île de Ouessant, je m'y rends samedi, eh bien je ferai campagne pour aller chercher la légitimité populaire. Car quand on est un élu de la République, c'est le peuple qui décide s'il vous fait confiance ou pas.
Ce n'est pas le peuple qui juge.
Non, mais les juges sont déjà prononcés, vous avez raison de le dire.
Ils se sont en partie prononcés, enfin encore une fois, c'est quelques lignes d'un communiqué du parquet de Brest vendredi dernier.
Mais c'est pas moi qui tiens la plume des parquetiers, si vous voulez. Si à la fois
je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que le soupçon ne nécessite pas une enquête? Voilà, ils sont nombreux à la réclamer encore ce matin, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui le disait tout à l'heure, il faut un climat de conscience, il faut trouver un moyen d'éradiquer le doute, les Français ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas d'enquête.
Bah, écoutez, merci des conseils de Mme Kosciusko-Morizet, qui conseille la justice. Moi, la justice agit en toute indépendance, elle fait ce qu'elle veut. Pour l'instant, elle s'est prononcée de manière souveraine.
Alors, vous parliez de Châteaulin, de Carré et d'autres communes du Finistère. Nous y allons. Thierry nous appelle du Finistère. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à l'antenne. Pardon,
oui.
Bienvenue.
Oui. De Lanvioc, où le maire de Lanvioc a soutenu Monsieur Ferrand, et maintenant, on s'aperçoit que c'est les mêmes pratiques. On pensait que ça allait changer, mais c'est les mêmes pratiques. Et je voulais dire aussi à propos de France Inter que il faudrait arrêter de faire de l'anti-Mélenchon, Monsieur Cohen. Vous pouvez avoir des opinions personnelles.
Par exemple,
c'est sur un service public.
Oui, vous avez des exemples. Vous avez des exemples.
Oui, bien sûr. Bah, vous avez fait un faux interview la veille du premier tour avec Mélenchon qui n'était pas là, et vous avez critiqué le programme sans qu'il ait droit de réponse. Je trouve que c'est un parti pris
et que ce n'est pas digne du service public.
Bon, d'accord, très bien. Vous avez d'autres choses à nous dire ce matin ?
C'est pas des fausses interviews.
Non, c'était pas une fausse interview. Non, c'était pas
vieux enregistrement. Non, mais présenté comme tel.
Sur le programme.
Bon.
Vous avez fait une appréciation désobligeante sur le programme sans qu'on ne puisse y répondre.
Bon.
C'est scandaleux. La veille du premier tour,
bon.
De
bon.
Faire.
Je note que vous ne supportez pas les critiques de votre grand homme. Bon, une question pour Richard Ferrand ou pas, ou un commentaire ?
Faut pas détourner. Faut pas détourner, monsieur Cohen. Mm. Je parle de pluralisme des idées. Je parle pas de vos opinions personnelles. Je parle du pluralisme des idées sur le service public. Ça n'a rien à voir.
Oui, écoutez.
Bah, monsieur Corbière était là tout à l'heure pour
oui,
dans le cadre
sûr,
de ce pluralisme.
Sûr. Oui, bien sûr.
Et monsieur Mélenchon ne veut pas venir le matin.
Oui, non, attendez, monsieur Cohen, il a fait deux pièges sur la 5. D'ailleurs, j'ai posé deux questions à la 5 qui m'a jamais répondu.
Ah, ouais, d'accord.
Sur des vidéos à charge.
Très bien.
Des vidéos à charge et elles ont été coupées. J'ai posé des questions trois fois à la 5. On m'a jamais répondu sur ces deux vidéos coupées. Le piège.
Avez-vous d'autres choses? Vraiment, je laisse la plus grande liberté aux auditeurs de me critiquer, Avez-vous d'autres choses à dire que cela, que les critiques contre Jean-Luc Mélenchon ou les remarques ou les anecdotes vous sont insupportables? Monsieur, je vous offre cette antenne. Allez-y, c'est à vous.
Eh bien voilà. Donc j'aimerais bien qu'on parle du programme et qu'on arrête de parler des états d'humeur de monsieur Mélenchon. Et qu'on parle de son programme plutôt que d'essayer de le traduire de
donc
toutes les
façons. Je suis allé au bout de votre truc. Merci. Olivier nous appelle de Lille. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Ferrand.
Bonjour Monsieur.
Ma question est la suivante, je ne vais pas vous interpeller sur l'affaire des mutuelles de Bretagne, puisque c'est une affaire privée. Par contre, je voulais avoir votre avis, votre analyse sur la différence morale que vous pouvez faire. Je parle bien de différence morale que vous pouvez faire entre l'affaire Fillon qui a empoisonné la campagne présidentielle, les soupçons qui pèsent, et je parle de soupçons, hein, les soupçons qui pèsent sur Ariel de Sarnez, qui est la bras droite de Monsieur Bayrou, qui aurait embauché une collaboratrice du Modem payée par le Parlement européen, et les soupçons qui pèsent également sur vous, sur le fait que vous ayez embauché votre fils comme attaché parlementaire.
Bien, écoutez, d'abord... Monsieur Fillon est face à ses juges, donc je n'ai pas, moi, à me prononcer sur les différentes procédures. Il bénéficie, comme tout citoyen, d'une présomption d'innocence, il doit se défendre, etc. Sur ce que vous évoquez concernant Madame de Sarnez, pour l'instant, ce sont des articles de presse que j'ai lus qui indiquent qu'une dénonciation fait état de choses. Mais là aussi, il ne faut pas s'emballer. Il faut regarder de quoi il retourne. Pour ma part, vous me dites quelle est la différence entre ma situation et celle de l'ancien Premier ministre. D'abord, je ne suis pas mis en cause par la justice. Personne n'a déposé plainte. À l'heure où nous parlons, les mutuelles de Bretagne se félicitent du choix de gestion que j'ai fait en 2010.
Je précise que les dirigeants actuels des mutuelles de Bretagne étaient ceux avec qui vous travailliez quand vous étiez vous-même.
Je ne travaillais pas avec eux, c'était mes patrons.
Ces mutuelles, oui,
c'était mes patrons.
La directrice
était mon adjointe.
Actuelle était votre
mais
adjointe.
Mais les administratrices
voilà,
et les administrateurs
préciser.
Sont mes patrons. Bon, et donc, que je sache, ceci a été validé. Donc les différences, elles sont extrêmement nombreuses. Ensuite, vous parlez de mon fils. Sachez que un parlementaire sur cinq, d'après un quotidien, voici quelques mois qui avait fait une enquête, travaille avec un membre de sa famille. Ce qui d'ailleurs ne signifie pas qu'il ne travaille pas bien, ou qu'il travaillerait mal, ou qu'il ne travaillerait pas. En tout cas, c'est un fait. Pour ma part, cela a duré 4 mois. Rémunéré un peu plus que le SMIC, 1 266 € par mois, parce que j'avais besoin au débotté que quelqu'un vienne remplacer un collaborateur qui était gravement souffrant. Voilà, alors si vous voulez, si on assimile le fait que certains n'auraient pas travaillé et auraient été rémunérés pendant des décennies, et si on le compare au fait que j'ai eu recours en toute légalité, car c'est autorisé, du moins jusque-là, et c'est une des choses que l'on veut modifier, parce que cette question est intéressante, parce que j'ai vu à la télé, on met en regard le fait que nous avons dit dans notre programme qu'on n'aura plus le droit d'embaucher des membres de sa famille à l'Assemblée nationale. Et on dit, mais enfin, vous l'avez fait, oui, 4 mois, un peu plus cosmique, et surtout, nous avons compris pendant la campagne électorale que c'était quelque chose qui n'était plus admissible. Et c'est pour ça que nous l'avons écrit dans notre programme, et nous allons le faire dans la loi de confiance ou de moralisation de la vie publique. Donc, on ne peut pas nous reprocher à la fois d'être à l'écoute, de comprendre, d'en tirer des conclusions et dire « faites ce que je dis parce que je fais », pas du tout. Donc, au fur et à mesure, on prend conscience des choses, on veut les modifier pour justement rassurer les citoyens, et c'est cela le sens du travail que nous menons. C'est parce qu'on est à l'écoute que l'on change les choses, et il n'y a pas de contradiction.
Un dernier point, Richard Ferrand, pendant que votre dernière réponse, je regardais l'ensemble des appels, ils sont assez nombreux au standard de France Inter, des appels assez critiques, on les a entendus, on les a pris à l'antenne, mais aussi, je vous le dis avec un peu de surprise, des gens qui prennent votre défense, qui critiquent le procès, les procès qui vous sont faits, sommes-nous revenus dans la période de la délation, de la dénonciation, aussi des critiques contre la presse, la presse va-t-elle continuer à faire les poubelles, etc. Est-ce que un commentaire là-dessus sur l'attitude de la presse et des journalistes depuis une semaine, est-ce que vous, vous dénonciez tout à l'heure le tintamarre qui était fait, il y a un acharnement, il y a quelque chose de particulier?
Vous savez, dans une démocratie, il ne faut pas hurler avec les loups. La liberté de la presse est quelque chose qui est sacré. Quand j'étais jeune homme, j'ai été un tout petit peu journaliste, à un modeste niveau, et je considère que il faut laisser la presse vivre. Simplement, ce que je dis, c'est que quand je constate que j'ai les honneurs de la première page d'un grand quotidien...
Pour lequel vous avez travaillé comme correspondant.
Et que je lis deux pages, ce qui donne du volume, ça donne l'impression que c'est un grand truc. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je lis? Uniquement les réponses que j'ai moi-même faites, car je ne me suis pas dérobé, aux gens qui m'ont interrogé. Et alors, par l'effet de masse, ça donne l'impression que c'est l'affaire du siècle. Et quand on regarde, on dit quoi? On dit, ah tiens, un tel a un lien avec un tel ceci, un tel cela. Non, de grâce, vous savez, comment je vais sur le terrain? Parce que les gens, ils me connaissent chez moi. Quand je vais sur le terrain, quand je suis en campagne, je reçois beaucoup d'encouragement, parce que les gens savent ma passion pour servir mon territoire, pour servir mon pays, et que là, on essaye de faire quelque chose qui, d'ailleurs, vous savez, ne me concerne pas vraiment. La tentative, c'est quoi? La tentative, c'est d'atteindre un des premiers marcheurs. C'est pas Richard Ferrand, ancien directeur général des Mutuelles de Bretagne. Et d'ailleurs, je vois bien que un certain nombre de personnes cherchent à faire une, et c'est la vie politique, une exploitation de cela. Je pense aux des responsables de partis qui vont d'échec en échec et qui se disent, tiens, la belle aubaine, on va essayer de se refaire la cerise sur le dos de cette histoire qui n'est pas une affaire. De grâce, il n'y a pas d'affaire.